Alors le deuxième thème est terminé, donc on va passer en fait au contenu libéral, néolibéral, qui est inclus dans ce traité modificatif européen. Donc plusieurs questions apparaissent. Est-ce que la concurrence libre et non faussée que les partisans du non dénonçaient il y a 2 ans, est-ce qu'elle est encore là ou pas? Est-ce que la rigueur budgétaire de la politique économique est aussi inhérente à ce traité? Est-ce qu'on inscrit dans le marbre une politique économique que les générations futures ne pourront pas choisir finalement? Est-ce que des harmonisations sociales sont possibles? Et les services publics, qu'en est-il? Sont-ils préservés? Je passe la parole à Mme Paqueta, ancienne députée européenne représentante de la LCR.
Bonsoir. Donc, je représente ici, comme a dit le camarade de la LCR, et sur le contenu libéral et ses conséquences, la première chose peut-être à se dire, je ne sais pas qui c'est, alors je me lève aussi, c'est 3 petites choses. La première, ce nouveau traité européen, est-ce que la concurrence libre et non faussée figure toujours dans ce traité? Alors, c'est vrai que si même Valérie Giscard d'Estaing nous dit que c'est dedans, puis je pense qu'on l'a lu, ça, donc c'est sûr qu'on a ça. Donc, pour parler des avancées sociales ou du libéralisme contenu dans ce traité, ça vaut le coup de voir dans quel contexte c'est. Donc, le premier contexte, c'est celui-ci, la concurrence libre et non faussée. Le deuxième contexte, et je crois qu'il ne faut pas banaliser, ça a été dit plusieurs fois, mais j'insiste un peu, c'est une écriture volontairement illisible. Ils l'ont fait exprès. Et je trouve, je ne sais pas vous, dans vos boîtes, dans vos collèges, lycées, etc., comment ça s'est passé en 2005, mais le projet de traité constitutionnel ne peut pas mentir si on était saisi. Moi, je me rappelle de réunions importantes dans la boîte où je suis. Il y a 4000 salariés qui ont travaillé ces textes-là, ont regardé ce qui était dedans à l'intérieur des syndicats. Et ça, par exemple, eh bien, ça a peut-être permis la grosse participation des électeurs et des électrices au moment du vote du référendum le 29 mai 2005 et leur capacité à dire non à ce traité. Et là, volontairement, ils nous privent de cet outil-là, de compréhension commune, globale de ce nouveau traité. Le troisième point, c'est assez incroyable. On se demande si on est vraiment en démocratie en France, si on en doute. Vous avez vu pendant la grève des cheminots, où tous les jours, le gouvernement fantoche de Sarkozy expliquait comment ils se battent pour maintenir leur retraite, les régimes spéciaux, les fameux régimes spéciaux, alors que Sarkozy avait dit qu'il les supprimerait, et quand même, c'est lui qui est légitime à 53% des votes. Alors à 53% des votes, la grève contre ce qu'il mettait en place était quasiment illégitime, mais là, à 55%, le peuple s'est exprimé contre ce traité européen, et on y va. Sur le contenu, alors je peux vous le faire brutal, hein, ce projet de traité constitutionnel européen, c'est un projet cohérent, c'est le projet d'une classe, la leur, contre notre classe, la nôtre. Ça vise à imposer quand même un système économique, système capitaliste, à l'ensemble de l'Europe et pour la durée. Un système quand même contre lequel, depuis 15 ans en particulier, beaucoup, beaucoup de salariés se sont battus. Leur objectif, c'est de réduire, et je prendrai des exemples, au maximum le coût du travail et de limiter la redistribution, déjà pas très importante, de la richesse. Pour ça, je prends 3 grands axes. Le premier, c'est une remise en cause drastique du droit du travail. Et ça, c'est important. Alors, par exemple, le droit du travail, il est vidé de plus en plus d'un contenu protecteur. Les exemples, c'est le recul sur les barrières à la durée maximum du travail. C'est le recul, on l'avait déjà vu, sur le travail de nuit des femmes. Le recul sur le droit à une retraite dans de bonnes conditions. Et ça, ça permet la casse du code du travail, comme on le voit actuellement en France aujourd'hui avec les essais de Sarkozy, et si on ne va pas, il va y arriver, et partout en Europe. Et ça, c'est une précarisation pour tous. La deuxième question sur les services publics, évidemment, la règle de la concurrence, c'est là où elle va faire le plus de mal. Alors cette sacro-sainte règle, elle doit être respectée par les États. Et les États, je cite juste une ou deux phrases, je ne vais pas vous soumettre avec plein de phrases de ce nouveau traité, mais les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire, c'est l'article 53. Hein, donc, voilà, une incitation très très forte. Puis des incitations après qui sont plus financières. Par exemple, les interconnexions indispensables dans les transports, eh bien, elles sont conditionnées à l'ouverture à la concurrence. Ça veut dire que si vous n'ouvrez pas vos réseaux de transport, ben, vous n'aurez aucune aide pour développer les transports. Dans le cadre, c'est une deuxième phrase, dans le cadre d'un marché, le marché des marchés ouverts et concurrentiels, l'Union européenne vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux. Le volume, en gros, de ce qui peut être devenir une marchandise, il ne cesse pas d'augmenter dans tous les services publics. Tous les services publics sont visés. Alors, évidemment, la conséquence de ça, on la connaît tous, hein, c'est une inégalité de plus en plus importante entre ceux qui vont pouvoir se payer des services privés, en fait, et puis les autres qui ont besoin, et nous sommes beaucoup dans ce cas-là, de services publics, qui est un service public quand même, une forme de redistribution de la richesse dans l'ensemble des pays. Et troisième point, c'est sur le pacte de stabilité, pourtant qui avait été jugé stupide hein, par Romano Prodi, il est maintenu et il bride aussi là les dépenses obligatoires enfin, intéressantes pour l'ensemble d'un peuple qui sont d'habitude réalisées par les États, la formation, l'éducation, la recherche, la santé par exemple. Je voudrais juste dire aussi un petit mot parce qu'on juge aussi de la nature d'un projet social à la qualité d'accueil des étrangers. Et là encore, tous les ingrédients d'une Europe qu'on appelle forteresse, d'une Europe barricadée contre les peuples du monde entier, ils sont réunis. Alors, à la fois, on a d'un côté les capitaux des patrons voyous qui se déplacent comme ils veulent partout dans le monde, et de l'autre côté, on a des milliers de personnes qui sont condamnées à la noyade au large des côtes européennes. Et au nom, alors il y a des termes aussi, la gestion efficace des flux migratoires, au nom de la gestion efficace des flux migratoires, les États, ils sont incités à durcir leur politique d'immigration, à l'adapter aux besoins des entreprises et des territoires et à envisager de déléguer une partie à des pays tiers hors de l'Union européenne, le traitement des clandestins. Alors, évidemment, les conséquences de tout ça, elles sont franchement claires. Moins de solidarité, moins de répartition de richesses. Mais ce qui est intéressant dans... c'est que, en fait, le gouffre dont parle Sarkozy entre les dirigeants et les peuples, ben, il est clair, il le nomme lui-même. Et face à ça, quand même, on ne va pas rester les bras croisés. La réunion de ce soir, elle va dans le bon sens. Effectivement, si on gagne un traité, quelque chose sur lequel eux, ils ne parient pas, mais nous, on parie dessus, on va y aller fort là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que la coordination des luttes, puisque eux-mêmes déclarent la guerre, la coordination des luttes au niveau européen, avec les cheminots, ils étaient en grève du côté, de chaque côté du Rhin, c'était quelque chose d'intéressant, c'est des choses à continuer. Et ça, c'est porteur d'espoir sur l'Europe. Au niveau de l'Europe, je suis bien d'accord qu'il faut continuer à élaborer, à se battre, à lutter. Je crois qu'on en parlera sans doute, mais il y a un forum social européen qui est un petit peu en train de s'organiser. Il faut s'y réengager effectivement de façon importante. Il y a aussi, au niveau des mouvements sociaux, des regroupements au niveau européen, et puis il y a aussi des organisations politiques qui s'organisent. Je pense, moi je représentais mon organisation politique au deuxième congrès de la gauche européenne il y a 15 jours à Prague. C'est des gens qui s'organisent, et d'autres aussi, il y a en Europe aujourd'hui une gauche anticapitaliste européenne qui se cherche et qui se trouve autour de la LCR et d'autres organisations. Je crois qu'il y a des choses qui se font au niveau de l'Europe et que c'est vrai qu'on a intérêt tous ensemble de continuer sur cette question européenne. Merci.